En nos climats, peu d'insectes rivalisent de renommée populaire avec le ver luisant, la curieuse bestiole qui, pour célébrer ses petites joies de la vie, s'allume un phare au bout du ventre. Qui ne le connaît au moins de nom ? Dans les chaudes soirées de l'été, qui ne l'a vu errer parmi les herbages, pareil à une étincelle tombée de la pleine lune ? L'Antiquité grecque le nommait l'Empire, signifiant « porteur de lanterne sur le croupion ». On pourrait en effet chercher chicane à l'appellation de ver. Le lampyre n'est pas du tout un ver, ne serait-ce que sous le rapport de l'aspect général. Il a 6 courtes pattes dont il sait très bien faire usage. C'est un trotte-menu. À l'état adulte, le mâle est correctement vêtu d'élytres, en vrai coléoptère qu'il est. La femelle est une disgraciée, à qui sont inconnues les joies de l'essor. Elle garde, sa vie durant, la conformation larvaire, pareil, du reste, à celle du mâle, incomplet lui aussi, tant que n'est pas venue la maturité de la pariade. Même en cet état initial, le terme de ver est mal appliqué. Une locution vulgaire dit « nu comme un ver » pour désigner le dénuement de toute enveloppe défensive. Or, le lampyre est habillé, c'est-à-dire vêtu d'un épiderme de quelque consistance. En outre, il est assez richement coloré, d'un brun marron sur l'ensemble du corps et agrémenté, d'un rose tendre sur la poitrine, surtout à la face inférieure. Enfin, chaque segment est décoré au bord postérieur de 2 petites cocardes d'un roux assez vif. Pareil costume exclut l'idée de verre. Laissons tranquille cette dénomination mal réussie et demandons-nous de quoi se nourrit le lampyre. Un maître en gastronomie, Bria Savarin, disait « Montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Pareille question devrait s'adresser au préalable à tout insecte dont on étudie les mœurs, car, du plus gros au moindre dans la série animale, le ventre est le souverain du monde. Les données fournies par le manger dominent les autres documents de la vie. Eh bien, malgré ses innocentes apparences, le lampyre est un carnassier, un giboyeur, exerçant son métier avec une rare scélératesse. Sa proie, réglementaire, est l'escargot. Dans un large bocal garni d'un peu d'herbage, j'installe quelques lampyres et une provision d'escargots de taille convenable, ni trop gros, ni trop petit. Le ver luisant explore un peu la pièce, d'habitude rentré en plein dans la coquille, moins le bourrelet du manteau qui déborde un peu. Alors s'ouvre l'outil du vénateur, outil très simple, mais exigeant le secours de la loupe pour être bien reconnu. Il consiste en 2 mandibules fortement recourbées en croc, très acérées et menues, comme un bout de cheveu. Le microscope y constate, dans toute la longueur, un fin canicule. C'est tout. De son instrument, l'insecte tapote à diverses reprises le manteau du mollusque. On dirait innocent baiser plutôt que morsure, tant les choses se passent avec douceur. Entre jeunes camarades, échangeant des agaceries, nous appelions jadis pichenette, de légères pressions du bout des doigts, simple chatouillement plutôt que sérieuse agression. Servons-nous de ce mot. Dans une conversation avec la bête, le langage n'a rien à rester enfantin. C'est la vraie manière de se comprendre entre naïfs. L'escargot est-il mort en réalité ? En aucune manière, car il m'est loisible de ressusciter l'apparent trépassé. Après 2 ou 3 jours de ce singulier état, qui n'est plus la vie et n'est pas davantage la mort, j'isole le patient et, quoique ce ne soit pas bien nécessaire au succès, je le gratifie d'une ablution qui représentera l'ondée si agréable aux mollusques valides. On le voit, une anesthésie soudaine et profonde est méthode excellente pour amener le lampyre à son but, qui est de consommer sa proie en parfaite tranquillité. De quelle façon consomme-t-il ? Mange-t-il en réalité, c'est-à-dire divise-t-il par miettes ? Découpe-t-il en minimes parcelles, broyées après avec un appareil masticateur ? Il me semble que non. Je ne vois jamais à la bouche de mes captifs traces de nourriture solide. Le lampyre ne mange pas dans la stricte signification du mot, il s'abreuve. Il se nourrit d'un brouet clair en lequel il transforme sa proie par une méthode rappelant celle de l'asticot. Comme la larve carnassière du diptère, lui aussi sait digérer avant de consommer. Il fluidifie sa proie avant de s'en nourrir. Voici comment les choses se passent. Un escargot vient d'être anesthésié par le lampyre. L'opérateur est presque toujours seul, même lorsque la pièce est de belle taille, comme le vulgaire colimaçon. Bientôt des convives à court, deux, trois et davantage, et s'ennoisent avec le réel propriétaire, tous se mettent à festoyer. Laissons-les faire une paire de jours et retournons alors la coquille, l'orifice en bas. Le contenu s'écoule aussi facilement que le ferait le bouillon d'une marmite renversée. Lorsque les consommateurs se retirent repus de ce brouet, il ne reste que des reliefs insignifiants. La chose est évidente. Par la répétition de fines morsures comparables aux pichenettes que nous avons vues distribuer au début, la chair du mollusque se convertit en brouet dont les divers convives s'alimentent indistinctement, chacun travaillant au bouillon au moyen de quelques pepsines spéciales et chacun y prenant ses gorgées. Par suite de cette méthode convertissant au préalable la nourriture en fluide, la bouche du lampire doit être bien faiblement armée en dehors des deux crocs qui piquent le patient, lui inoculent le virus anesthésique et en même temps, sans doute, l'humeur apte à fluidifier les chairs. Ces deux menus outils, tout juste explorables avec une loupe, doivent avoir un autre rôle, semble-t-il. Le lampire, expert liquéfacteur, ne laisse rien ou bien peu s'en faut. Et cela se fait avec une exquise précision, bien que l'équilibre soit parfois très instable. Ces menus détails nous disent avec quelle soudaineté agit la morsure anesthésique. Ils nous apprennent avec quelle dextérité le ver luisant exploite son escargot sans le faire choir d'un appui très glissant et vertical et sans même l'ébranler sur une ligne d'adhérence très faible. À l'extrémité postérieure de la bête, on voit un point blanc que la loupe résout en une douzaine environ de brefs appendices charnus, tantôt rassemblés en groupe et tantôt épanouis en rosette. Voilà, sans plus, l'organe d'adhésion et de locomotion. Veut-il se fixer quelque part, même sur une surface très lisse, par exemple le chaume d'une graminée ? Le lampire ouvre sa rosette et l'étale en plein sur l'appui où elle adhère par sa propre viscosité. Le même organe, s'élevant et s'abaissant, s'ouvrant et se fermant, vient largement en aide pour la marche. En somme, le lampire est un cul-de-jatte d'un nouveau genre. Il se met au derrière une gentille rose blanche, une sorte de main à 12 doigts inarticulés et mobiles en tous sens, doigts tubulaires qui ne saisissent pas mais engluent. Le même organe a un autre usage, celui d'éponge et de pinceau concernant la toilette. En un moment de repos, après réfection, le lampire se passe, se repasse le dit pinceau sur la tête, le dos, les flancs, l'arrière-train, manœuvre que lui permet sa flexibilité d'échine. Cela se fait point par point, d'un bout à l'autre du corps, avec une minutieuse insistance, affirmant le haut intérêt que l'insecte prend à son opération. Dans quel but s'éponger de la sorte, se lustrer, s'épousseter avec tant de soin ? Il s'agit apparemment de balayer quelques atomes de poussière ou bien quelques traces de mucosité qu'a laissé la fréquentation de l'escargot. S'il n'avait d'autre talent que de savoir anesthésier sa proie au moyen de quelques pichenettes semblables à des baisers, le lampire serait un inconnu du vulgaire, mais il sait aussi s'allumer en fanal. Il reluit, condition excellente pour se faire un renom. L'appareil lumineux occupe les trois derniers segments de l'abdomen. Sur les deux premiers, c'est de part et d'autre à la face ventrale, une large écharpe couvrant la presque totalité de l'arceau. Sur le troisième, la partie lumineuse se réduit beaucoup et consiste simplement en deux médiocres lunules, ou plutôt en deux points qui transparaissent sur le dos et sont visibles aussi bien en dessus qu'en dessous de l'animal. Écharpe et points émettent une superbe lumière blanche doublement bleutée. Le luminaire général du lampire comprend ainsi deux groupes. D'une part, les amples écharpes de deux segments précédant le dernier, d'autre part, les deux points de l'ultime segment. Les deux écharpes, apanage exclusif de la femelle nubile, sont les parties les plus riches en illumination. Pour magnifier ses noces, la future mère se pare de ses plus riches atours, elle allume ses deux splendides ceintures. Mais auparavant, depuis l'éclosion, elle n'avait que le modeste lumignon de l'arrière. Cette floraison de lumière représente ici l'habituelle métamorphose qui termine l'évolution en donnant à l'insecte des ailes et l'essor. Quand elle resplendit, c'est indice de prochaine pariade. D'ailes et d'essor, il n'y en aura pas. La femelle garde son humble configuration larvaire, mais elle allume les splendeurs de son phare.